Commençons par la prière. Seigneur, comme à notre habitude, nous venons à toi devant ta parole sainte, humains tels que nous sommes, et déjà par avance, nous allons la déformer. Nous allons l'altérer, parce que nous sommes humains, nous sommes limités par notre intelligence. Ta parole est infinie, ta parole est sainte, parce que ta parole, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi nous te demandons pardon par avance. Et je te prie, Seigneur, de transformer nos lacunes, nos faiblesses, en quelque chose de plus fort qui vient de toi. Que ta parole propre aille dans les cœurs, que tes explications, les explications viennent de toi, et que nous puissions être dans l'humilité, dans une attitude de réception de ta parole qui vient de toi, et que ce que tu as mis en nous rejette aussi qui peut venir de l'homme. Nous remettons ce message entre tes mains. Amen. Alors, aujourd'hui, donc le message d'aujourd'hui, au lieu de partir sur des sujets les uns après les autres, choisir un sujet et le traiter, après cette semaine, il me paraît opportun, il me paraît plus intéressant de partager avec vous qui est un message issu d'un travail collectif. Vous vous rendez même pas compte que vous allez préparer, certains parmi vous préparent avec moi le message des dimanches prochains. Et bien tout simplement, nous allons reprendre ce que nous avons fait ensemble durant l'étude biblique. Tous les mardis, nous nous réunissons avec quelques frères et sœurs, et nous sommes dans la lecture de l'évangile de Marc, dont certains ont déjà lu, étudié, etc. Et bien cette lecture que nous faisons en commun, nous discutant de cette parole ensemble, et bien elle me paraît utile de partager ce que nous faisons en petit comité devant l'Église. Comme ça, ceux qui ne peuvent pas venir, mais ils sont au courant de ce qu'on fait. Et en même temps, le Seigneur nous parle à travers sa parole. Et bien, à partir de maintenant, les dimanches, les messages de dimanche que je pourrai partager avec vous, ce sera tout simplement des messages issus de l'étude biblique sur ce que nous faisons ensemble. Comme ça, mes frères et sœurs peuvent me rectifier quand il le faut. Ou des fois, il peut y avoir des rajouts, mais ça, le Seigneur conduit toutes choses. Donc, l'évangile de Marc, qui est l'évangile le plus court. C'est l'évangile de la bonne nouvelle. Et bien aujourd'hui, nous allons commencer par le chapitre 1. Et je vais demander à Zach de nous lire le chapitre 1, versets 1 à 13.
Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant : Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel, les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient.
Merci beaucoup, Zach. Je ne vous propose pas un récit, une lecture historique. Vous avez bien compris, nous ne sommes pas là pour lire l'histoire de Jésus à travers un récit d'un certain Marc. Dans la culture encore hébraïque, sémite, de laquelle je viens, il y a plusieurs dimensions dans la lecture de la parole de Dieu. Il y a la lecture littérale, et là ça dépend des traductions, donc je lis, je me nourris, c'est l'histoire, et je suis au courant, je peux me connaître par cœur, je peux même faire des conférences sur l'histoire de chaque évangile, tout ce que vous voulez, mais ça se limite à une nourriture cérébrale, humaine, qui va disparaître dans la tombe. Mais comme la parole de Dieu nous dit que sa parole est vivante, plus tranchante qu'une épée, c'est-à-dire elle nous nourrit dans notre être intérieur, eh bien il y a une dimension spirituelle derrière tout ce que nous lisons. Je vous invite à une lecture de l'évangile de Marc dans le sens où, à travers ce que nous lisons, nous nous regardons comme à travers un miroir pour nous dire, nous, à travers cette parole, où nous en sommes. C'est comme ça qu'il faut lire l'évangile. Et en même temps, à travers la lecture, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Parce que sa parole, il y a plus de 2000 ans, et la même aujourd'hui, et elle est vivante. Et tout a une signification. Le cheminement du Seigneur est le nôtre. Si nous nous posons des questions, si nous avons des doutes, si nous avons des interrogations, je pense que c'est le moment pour chacun de nous de nous examiner à la lumière de ce que nous allons lire ensemble. Et que le Seigneur nous aide. Marc, un des disciples du Seigneur, que la Bible en trouve, il est évoqué dans les Actes des Apôtres, c'est un des compagnons de l'apôtre Paul qu'il a abandonné en cours de route parce qu'il y avait un conflit entre les deux, mais qu'il a retrouvé avec Pierre à Rome plus tard. D'ailleurs, il est Marc, on l'appelle aussi Jean-Marc. Et c'est un disciple qui a retrouvé surtout Pierre à la fin de sa vie. Et c'est pourquoi on pense qu'il était très influencé par la vie, par le ministère de Pierre. La Bible, dans le Nouveau Testament, il y a 4 évangiles. Se poser la question pour les 4 évangiles, il y a beaucoup de raisons. Mais dans la culture hébraïque, on confirme, on constate la véracité des choses quand il y a 2, 3 témoins, etc. Là, nous avons 4 témoins. Mais en même temps, le message de ces 4 évangiles diffère des uns et des autres, bien qu'ils parlent de la même chose, de la même personne, de Christ, mais différemment. L'évangile de Matthieu, c'est un disciple, c'est un érudit, c'est un juif qui fait appel, c'est l'évangile où on fait appel plus à des passages de l'Ancien Testament. Il s'adresse à des juifs érudits, qui connaissent la parole, donc ils se réfèrent à l'Ancien Testament. Celui-là, c'est Matthieu. Luc, d'ailleurs, on lui attribue aussi les Actes des Apôtres, c'est le médecin. On va dire, c'est le cartésien, c'est celui qui est très pointu, il veut vraiment chercher les détails et qui a cherché à avoir un récit le plus complet. D'ailleurs, qui le dit lui-même dans Luc, chapitre 1, verset 3. Après, nous avons l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, c'est plutôt l'évangile céleste. L'évangile qui nous parle d'un monde qui n'est pas de cette terre-là. Avec Jean, on voyage dans le ciel. Parce que Jean a un souhait que Dieu a mis en lui, celui de développer la foi de ses lecteurs. Après, nous avons Marc. Marc, comme je vous l'ai dit, c'est un disciple simple, très simple. Il va directement à l'essentiel. C'est l'évangile le plus court. Et d'ailleurs, nous comprenons pourquoi aujourd'hui, dans l'évangélisation, on offre plus un évangile de Marc. C'est celui qui va directement à l'essentiel, il commence tout de suite par le baptême. Il ne raconte pas l'histoire de Jésus avant. Tout ça, c'est bien pour un objectif bien défini, celui d'annoncer la bonne nouvelle. L'évangile de Marc commence de la même manière que la Genèse commence. De la même manière que l'évangile de Jean commence. Au commencement, Dieu créa. Au commencement était la parole. Et dans l'évangile de Marc, nous lisons « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu », comme Zach vient de le lire. L'évangile de Marc n'est rien d'autre que le développement de la bonne nouvelle, qui est le premier verset de l'évangile. Le premier verset de l'évangile, on peut le considérer comme le titre, l'intitulé de tout l'évangile. C'est comme si, comme Marc veut nous dire, je vous annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Vous ne savez pas quoi ? Comment ? Eh bien, lisez le reste. Le premier verset est le résumé de tout l'évangile. Première remarque. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est à la fois Fils de Dieu et Christ. Le titre rejoint la déclaration de Pierre au Seigneur. Rappelez-vous que le Seigneur lui a demandé « Qui dites-vous que je suis ?» Ça vous dit quelque chose ? Pierre lui dit « Mais il y en a qui disent que vous êtes prophète. » D'autres qui disent ceci, parce que ça, après il dit « Mais toi, mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre lui dit « Tu es le Christ, Fils de Dieu. » Et ça, hasard, c'est justement le titre de l'évangile de Marc. L'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et quand Pierre a dit au Seigneur « Tu es le Christ, Fils de Dieu », le Seigneur lui a répondu « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit cela, ça ne vient pas intellectuellement, humainement. » Tu l'as dit parce que Dieu, tu l'as révélé. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Toute l'église, la vie de l'église, nous en tant qu'église, est bâtie non pas sur Pierre, mais sur sa déclaration. Tu es le Christ, Fils de Dieu. L'évangile de Marc, il est en train de nous dire, vous voulez savoir ce que c'est que l'église? Vous voulez savoir ce que ça veut dire la bonne nouvelle? Ben, c'est ce que je vais vous dire dans cet évangile-là. C'est très important. Tu es le Christ, Fils de Dieu. L'évangile de Marc contient 16 chapitres, si je ne me trompe pas. Et si vous remarquez bien, si vous l'avez lu, vous verrez qu'il est divisé en deux. Jusqu'au chapitre 8, et c'est ce que nous découvrirons ensemble. D'ailleurs, on est au chapitre, je crois, 2. Après, je ne sais pas quand est-ce qu'on le terminera. Et bien, jusqu'au chapitre 8... Marc ne relate ce que fait le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait ? On n'entend que le Seigneur qui fait. Mais à partir du chapitre 9, c'est un autre récit. Il est en train de dire, que faites-vous d'après ce qu'il a dit le Seigneur ? Jusque 8, il y a un aller. À partir du 9, il y a le retour. Et ensemble, nous voyons que l'Église n'est pas seulement une entité qui passe son temps à contempler ce qu'a fait le Seigneur, à chanter, à prier, etc. Ça, c'est la première partie. Il y a un retour. Est-ce que ce que vous contemplez a un impact dans votre vie ? C'est le retour à partir du chapitre 9 de l'Évangile. C'est notre responsabilité, mes frères et sœurs, en tant que chrétiens. Nous ne devons pas seulement nous déclarer chrétiens, accueillir le Seigneur, nous contempler, chanter, etc. Mais est-ce qu'il y a un impact dans ma vie de tous les jours pour qu'on voit le Seigneur à travers ma vie ? Au point de ne même pas prononcer le mot Jésus, les autres voient le changement chez moi. C'est ça l'évangile de Marc. Et c'est cette lecture que je vous invite à lire au-delà des mots, au-delà des phrases, et nous questionner à chaque moment où nous en sommes. C'est ça la nourriture. Elle m'interpelle, elle me remet en question, mais pour mon bien, parce que j'avance après. Le projet de Dieu pour sa création est annoncé dès le premier verset dans l'évangile de Marc. La bonne nouvelle. Pour y accéder, Dieu nous donne le chemin. Dieu nous donne le chemin. Qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin doit se frayer en nous pour que cette bonne nouvelle soit nôtre. Si ce chemin ne se fraye pas, la bonne nouvelle restera à l'extérieur. Nous la contemplons, mais elle ne rentre pas. Versets 2 et 3 Il est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin, voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert, il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Ce chemin intérieur où les questions, parce qu'on parle de chemin, qui mène vers la bonne nouvelle, est intime. Il est personnel. Votre chemin et le mien, c'est personnel. Chacun son chemin. Il commence d'abord dans notre désert intérieur. Dans notre désert intérieur. Une terre aride où règne une certaine mort et une certaine tristesse. Nous avons tendance à porter ce jugement sur le monde qui nous entoure. Mais on oublie que le premier monde désertique, le premier monde spirituellement parlant, anéanti, désert, c'est le monde qui est en nous, en tant qu'être humain. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, et voilà le Seigneur ce que nous dit à chacun de nous à travers cette première lecture. C'est pour cette bonne nouvelle, c'est pour préparer le chemin du Seigneur dans notre cœur que le message de Jean-Baptiste trouve tout son sens. C'est seulement après avoir dit « préparer le chemin de notre cœur » qu'il est dit « alors, vient après, alors, Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. » Il s'agit bien d'un baptême par immersion et j'insiste là-dessus. Il n'est pas question de baptême par aspersion. Ce n'est pas biblique du tout. Il faut être clair là-dessus. C'est un baptême par immersion. Dans Jean chapitre 3, verset 3, il est écrit « Jean aussi baptisé à Enon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, on y venait pour être baptisé. » Si ce n'était pas par immersion, pourquoi on dit qu'il y avait beaucoup d'eau? Bien entendu, le baptême ne sauve pas. Mais le baptême est la représentation, la symbolique d'une œuvre qui se fait en nous. C'est le message de la métamorphose. De la mort, on passe à la vie. C'est un témoignage d'une réalité disponible qui ne cherche qu'à s'accomplir en nous. On ne devient pas d'un seul coup spirituel parce qu'on est baptisé. Pas du tout. C'est un témoignage que le baptisé proclame suite à une œuvre de repentance qui se fait en lui. Une repentance accompagnée d'une confession de ses péchés devant son Créateur. À chaque fois que les étapes de l'Évangile nous passent à l'Évangile, chacun de nous peut s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Versets 4 et 5. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert, il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. La bonne nouvelle de Jésus, de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, commence par la prédication de la repentance. Une église qui ne prêche pas la repentance, elle est à côté de la plaque. La bonne nouvelle commence par la prédication de la repentance. Une repentance sincère que Dieu anime en nous à travers notre conscience vivifiée. Nous avons une conscience que Dieu a vivifiée et cette conscience nous interpelle quand nous faisons mal vis-à-vis de Dieu. Eh bien, nous devons nous agenouiller et lui demander pardon. Une repentance qui s'accompagne d'une confession. Une confession publique ou privée, ce n'est pas le problème. Mais l'état de cœur doit nous mettre à genoux dans notre intimité pour confesser nos péchés devant Dieu et lui confesser notre désir de changer. Sans ce chemin de repentance, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas goûter réellement à la signification profonde et intérieure de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La repentance est nécessaire au salut et à la nouvelle naissance. Deux Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, tout ça c'est de la repentance, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il y a le si, que des fois on le balaye. La vraie repentance, c'est avoir une réelle tristesse pour notre péché contre Dieu. Ça va dans le sens de béatitude, heureux les pauvres en esprit, car ils seront rassasiés. C'est quoi les pauvres en esprit? C'est ceux qui réalisent leur pauvreté en esprit. En fait, on va plus loin. C'est ceux qui réalisent qu'ils n'ont pas du tout l'esprit de Dieu. Je vais encore plus loin, c'est ceux qui pensent avoir l'esprit de Dieu, mais en fait, ils n'ont que eux-mêmes. 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 9 et 10. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Vous voyez l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il y a des saintes tristesses. Et il est bonne la tristesse qui mène à la repentance. Parce que la repentance mène à la vie. Vous avez été attristé selon Dieu afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Oui. Quand on est triste, et le Seigneur permet notre tristesse qui mène à la repentance, soit on est un peu dépité, on n'en veut pas, on est triste, ça mène jusqu'à la mort, soit elle nous remet en selle, on confesse nos péchés, et hop, on est parti, c'est la vie. La repentance s'est manifestée aussi du fruit spirituel. Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ça, c'est la repentance. La repentance qui ne porte pas de fruit, ça demeure quelque chose de mort. Mais la vraie repentance, elle porte des fruits. Luc chapitre 3, verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ses pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Le salut n'est pas une affaire familiale. Un salut n'est pas une affaire de famille. Le salut, ce n'est pas une affaire de descendance. Le salut n'est pas une affaire de proximité. On ne naît pas sauvé. Et repentant, on le devient. La repentance nous met dans une disponibilité active du cœur à recevoir le salut du Seigneur. Le chemin de la repentance est vital. Il n'y a pas de vie sans repentance. Le chemin de la repentance prépare le terrain pour recevoir le salut. C'est dans ce sens que Jean-Baptiste précède le Seigneur dans son ministère. Nous comprenons pourquoi dans l'évangile de Marc et les autres, Jean-Baptiste a commencé son ministère avant le Seigneur Jésus. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. La repentance sincère mène à la vie. Le chemin de la repentance est un chemin de dépouillement et de brisement. La repentance nous fait accepter le dépouillement. Il n'y a pas de repentance sans dépouillement. Il y a quelque chose qu'on prend sur nous en confessant nos péchés, en reconnaissant notre désir de changer. C'est un chemin de mort à nous-mêmes. C'est le sens du baptême qui exprime cette démarche de mort et de résurrection en Christ notre Seigneur. Mais quel est ce sens du baptême quand on se fait baptiser? Quel est le sens pour qu'on le fait? Eh bien, la parole est claire, la parole. J'ai pas noté le chapitre, vous voyez, m'excuser. Donc Romains chapitre point d'interrogation verset 3 à 5. Donc ça vous permet d'aller chercher. Mais quand je vais lire le passage, vous allez le trouver. Ne le savez-vous donc pas? Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts, car si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. C'est le sens du baptême. Éphésiens 2, chapitre 4 et 6, à 6. À cause du grand amour dont Dieu nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Par notre union avec Christ, Dieu nous a ressuscités. C'est le sens du baptême. Le baptême, mes frères et sœurs, ne sauve pas. Le baptême ne nous purifie pas de nos péchés. Si vous le croyez, c'est faux. Ce n'est pas le baptême qui purifie, ce n'est pas le baptême qui sauve, ce n'est pas le baptême qui sanctifie. Le baptême est un engagement profond et sincère à suivre le Seigneur, à changer de vie. Au lieu de le dire par voix, au lieu de dire par prière, au lieu de le faire en prenant la Sainte Cène, eh bien je le fais par un acte qu'il nous a laissé. Le baptême, je rentre dans l'eau et je sors de l'eau. C'est un acte d'obéissance à Dieu. Colossiens, chapitre 2, verset 10. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures. Ouais, c'est clair. Hein? Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. L'engagement qui vous sauve. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Je rectifie. C'est un passage qui n'est pas de l'apôtre Paul, mais plutôt de Pierre. C'est dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 21 et 22. Je le reprends. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. S'il y a un baptême de repentance, il y a aussi, la repentance est d'eau, il y a aussi un deuxième baptême, qui est une réalité spirituelle. C'est l'autre facette du baptême d'eau. C'est le sens spirituel du baptême d'eau. C'est le baptême dans l'Esprit Saint. Comme l'explique Jean-Baptiste dans le verset 8. Moi, je vous ai baptisé de l'eau, avec de l'eau. Lui, Jésus-Christ, vous baptisera dans l'Esprit-Saint. Le baptême d'eau n'est pas une option spirituelle. Souvent, nous le traduisons par une option, je le fais si je veux. Ce n'est pas une option spirituelle. Et si nous doutons, si nous n'avons pas de réponse à cela, si vous dites, Abdel nous raconte n'importe quoi, eh bien, je vous dis, regardez ce qu'il a fait le Seigneur. Et je crois que nous avons la réponse devant ce qu'il vient de dire. Le Seigneur nous a laissé deux recommandations dans le Nouveau Testament. Deux, pas mille, deux seulement. L'homme a cherché beaucoup de choses, deux. La Sainte Cène que nous avons partagée et le baptême d'eau. Le baptême est un acte d'obéissance à Dieu. Est un témoignage de son œuvre de salut dans notre vie. Un témoignage devant Dieu, devant les hommes, devant soi-même et devant les puissances célestes. Quand je me fais baptiser, je témoigne devant les hommes, je n'appartiens à Dieu. Je fais un témoignage devant Dieu, je n'appartiens plus à ce monde, j'appartiens à toi. Je fais un témoignage devant moi-même, comme c'est un acte de repentance, et en même temps, c'est un témoignage devant les puissances célestes, devant le diable, devant Satan, qui on ne voit pas pour lui dire, je ne t'appartiens plus, j'appartiens au Seigneur. C'est pour ça que je rentre dans l'eau et je sors. Si vous vous posez la question quant à l'importance du baptême ou pas, il suffit de voir et de lire ce que le Seigneur a fait lui-même. Verset 9 jusqu'à 11. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. et il y a eu une voix venant des cieux. Tu es mon fils, bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. L'obéissance à la directive de Dieu, de se faire baptiser avec une repentance sincère, un désir profond de changer de vie et un engagement avec le Seigneur, vous savez, mes frères et sœurs, font chanter les anges dans le ciel. Les cieux se déchirent et le Père nous déclare, vous déclare, que vous êtes filles et fils de Dieu. Bienvenue dans la famille céleste, chantent les anges. Bienvenue dans la famille de Dieu. Nous sommes désormais des citoyens du ciel, et cette citoyenneté ne s'acquiert pas humainement, mais spirituellement, par l'Esprit Saint qui est en nous, qui vient trouver sa demeure dans notre vide intérieur. Désormais, nous sommes armés par et dans le Seigneur. Nous sommes entrés dans une union avec lui dans et par l'Esprit Saint. Nous possédons désormais tout en Christ, puisque Dieu nous le donne entièrement. Nous avons tout pleinement en lui. Colossiens chapitre 2, verset 10. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Désormais, nous sommes dans le monde, mais sans être du monde. Nous vivons sur terre, mais nous sommes aussi citoyens du ciel. Néanmoins, ce n'est pas pour autant que le chemin est achevé et que l'objectif est atteint. Non, loin de là. Ce n'est que le début d'un cheminement qui durera toute une vie et au bout, nous sommes appelés à devenir des vainqueurs. Lisez les premiers chapitres de l'Apocalypse. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Philippiens. Je crois que Corinne, tu l'as lu. L'apôtre Paul qui parle, qui dit « Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Ce n'est que le début de la route et du chemin. Ça veut dire que cette réalité reçue entièrement et gratuitement en nous doit porter ses fruits en nous. Nous avons reçu le Seigneur à travers son œuvre rédemptrice. Mort, ensevelissement, résurrection, ascension, glorification, tout ça nous avons reçu en nous. Eh bien, ces réalités doivent devenir notre réalité d'une manière progressive. C'est dans cette communion, c'est-à-dire une communion dans sa mort et dans sa résurrection, que nous pouvons triompher du monde, du diable et de nous-mêmes, à travers une succession de renoncements. Vous savez, la force de Dieu, c'est qu'il nous fait avancer dans nos faiblesses. C'est à travers nos renoncements successifs que nous sommes libérés et la force de Dieu jaillit en nous. Des renoncements, souvent le fruit d'épreuves successives. Oh, terrible! Il y en a qui vivent des épreuves plus terribles que d'autres. Mais nous sommes tous des êtres humains, nous n'acceptons pas ces épreuves. Oui, des renoncements souvent le fruit d'épreuves successives, mais des épreuves salvatrices. Regardez l'histoire des hommes et des femmes de Dieu dans la Bible, et vous verrez que l'aboutissement est largement meilleur que le début. Dieu ne cherche pas à nous détruire, mais à nous restaurer et à nous métamorphoser pour nous préparer pour la rencontre finale. Ça coûte, ça a un prix, c'est des épreuves. Mais c'est le prix à payer. C'est dans ce sens-là qu'il faut lire, il faut porter sa croix et le suivre. Mais en attendant cette rencontre ultime, que nous ne devons pas rater, bien entendu, c'est notre raison d'être. Nous devons vivre ici-bas, dans ce monde. Nous devons jouir de ce que Dieu nous offre dans ce monde et dans cette vie ici-bas, tout en étant en même temps ancrés dans une vie spirituelle animée par la foi que Dieu anime en nous. Dans ce monde, nous serons confrontés à ces convoitises. Ces convoitises qui font écho à nos propres convoitises et à la faiblesse de notre chair. Des convoitises accentuées par les mensonges du diable qui rôdent dans ce monde, qui nous fait croire qu'il y a des vérités, mais il n'y a pas qu'une vérité. des familles, comme il n'y a pas une famille. Voyez le message. Chacun, vous ne détenez pas la vérité. Chacun a sa vérité. Prenez la vérité chez tout le monde, les religieux, pas les religieux, mais ensemble faisons quelque chose. Ça, c'est le mensonge du diable qui a l'apparence de la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Ça reste un mensonge. Le diable rôde dans ce monde ici-bas pour nous déstabiliser et pour nous faire sortir de notre position céleste acquise à un grand prix. Ces épreuves et ces tentations auxquelles nous sommes et nous serons confrontés en tant qu'enfants de Dieu sont résumées et explicitées par l'épreuve subie par le Seigneur durant 40 jours dans le désert, juste après son baptême. Verset 12-13. Aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert. Dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Ça fera l'objet du prochain message, le désert. Mais rappelons-nous que l'issue de la tentation est fatale pour Satan dans le désert. Si le premier Adam a échoué dans le jardin d'Éden, parce que ce premier Adam était en devenir, il n'avait pas atteint cette réalité qu'à l'image de Dieu Christ, lui il a échoué. Mais seulement Christ. La même tentation, les mêmes tentations qu'il a reçues du Seigneur sont les mêmes dans le jardin d'Éden. Mais il est sorti triomphant. Jésus en est sorti vainqueur. Comme pour nous dire, qu'en donnant notre cœur au Seigneur, nous pouvons traverser les épreuves et les tentations dans la victoire accomplie par notre Seigneur, car nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes en communion avec lui. Et si nous souffrons, lui, il souffre. C'est pour ça qu'il traverse les épreuves avec nous. En lui, sachant, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu nous aide à ce que cette parole soit vivante en nous, nous interpelle, que nous puissions nous regarder à travers cette parole. Amen.